La quatrième de couverture. Une émission proposée et animée par Christine Baron.
Après janvier, février. Les mois se suivent et la vie culturelle poursuit sur sa lancée. Beaucoup d'attentes, beaucoup d'imagination aussi pour inventer d'autres façons de la faire vivre et de garder le moral. Et pour commencer le mois de février joyeusement, on a trouvé. On va fêter un anniversaire mémorable, pas celui de Flaubert, non, lui ce sera toute l'année, pas 200 ans non plus, non, 80 ans. Un petit jeune en quelque sorte, à côté de l'honorable Gustave. Un personnage de BD qui vient d'avoir 80 ans. Tonnerre de Brest, c'est le capitaine Haddock qui apparaît dans le 9e album des aventures de Tintin, Le Crabe aux Pinces d'Or, en janvier 41. Alors que nous réserve cette 16e édition de la 4e de couverture? Beaucoup de bonnes surprises pour fêter les 80 ans du capitaine Haddock dans la bonne humeur. Et pour fêter ce joyeux anniversaire, on parlera de chansons. Alors, ouvrons vite la 4e de couverture de février en musique. Pour oublier un peu la morosité ambiante bien compréhensible, la culture a redoublé d'inventivité en janvier. Si le public est privé de spectacles ou de rencontres, les artistes et tous les professionnels de la vie culturelle ont continué à travailler et à créer à huis clos. Les musées en ont profité pour embellir les salles, modifier les cimaises, les éclairages. Les Beaux-Arts de Rouen ou le MUMA au Havre ont des airs de chantier. Les théâtres poursuivent leurs répétitions. Les techniciens s'affairent. Et comme la seule issue à la fermeture des salles, c'est l'ouverture au streaming, tous ont développé des trésors d'imagination pour porter la culture vers ses publics grâce aux écrans. Les musées organisent des visites virtuelles. Et le MUMA a ouvert ainsi son exposition « Voyage d'hiver » sur son site. Mieux encore que des captations d'opéras ou des spectacles vivants, la Comédie Française a offert en janvier son « Bœuf sur la table ». Pendant plus d'une heure, on a pu partager avec les comédiens une soirée musicale chaleureuse et poétique, parce que la Comédie Française connaît la musique et les acteurs ont dévoilé leur talent de musicien dans une ambiance tamisée pour un bœuf intimiste plein de complicité. De Johnny Hallyday à Barbara, de Gainsbourg à Dao, une soirée joyeuse et réconfortante qu'on peut revoir sur le site de la Comédie Française pour le plaisir. Si ce bœuf sur la table se donnait des airs de rencontre improvisée, un vrai bœuf donc, un autre spectacle musical a bouleversé lui aussi les codes du virtuel avec une création mise en scène à l'Opéra Comique par Thomas Joly. Rien à voir avec un chauvisme déplacé, même si on n'a pas oublié ici son travail d'acteur ou ses mises en scène à Rouen. Et on a retrouvé sur la scène de l'Opéra Comique filmé l'engagement puissant qu'il a toujours insufflé à ses spectacles, sans tomber dans un militantisme de premier degré. Le titre du spectacle lyrique disait tout. « Chantons, faisons ta page », un petit bijou raffiné et plein d'esprit. Une injonction à lutter contre le fatalisme et la résignation. La période est sombre, comme le plateau dépouillé, nu, comme les masques et les costumes, la scène plongée dans les ténèbres. Mais les airs de Bizet, Gounod, Offenbach, Delibes ont ouvert les âmes vers l'allégresse et la légèreté. Les chanteurs plus brillants les uns que les autres ont prouvé avec Thomas Joly que l'art peut tout transcender. Et comment résister à ce « Duo des fleurs » de Léo Delibes, « Beau à pleurer », interprété par Sabine Devielle et Marianne Crébassa. Je te vois sourire. Comme pour la Comédie française, ce spectacle créé spécialement pour la télévision pendant le couvre-feu, pour un public privé de lieux culturels, est toujours visible sur Internet. On est loin d'une captation classique. C'est une création faite sur mesure pour les écrans qui revendique ce médium et s'en empare pour clamer avec le final des Contes d'Hoffmann d'Offenbach « On est grand par les pleurs, la muse apaisera ta souffrance ». Donc la musique console, le chant apaise, Thomas Joly a gagné son pari. Si les salles de spectacle sont fermées, les galeries de peinture, elles, restent ouvertes. Et pour retrouver la magie de la scène à l'Opéra Garnier ou à Bastille à Paris, il suffisait en janvier d'entrer à la galerie Frémont au Havre, qui exposait les toiles d'Olivier Desvaux. On y a retrouvé les superbes tons bleutés de son travail sur la Cosette de Victor Hugo, exposée au musée de Villequier cet été. Cette fois, c'était des danseurs de ballet sur scène ou dans les coulisses, sans musique mais dans la lumière des projecteurs. De la musique, on en a trouvé dans une autre galerie, la galerie Hamon au Havre, qui a exposé en janvier les portraits que Michel Haz, ancien graphiste au Volcan, a réalisés sur les chanteurs qui ont jalonné son parcours de musicien. Gainsbourg, beaucoup, Jane Birkin, Lerita Mitsuko, Françoise Hardy, Lennon, du rock, de la variété, beaucoup de toiles en noir et blanc. C'était encore un voyage en musique pour oublier la morosité ambiante. Inutile de dire que les expos terminés, les toiles sont visibles une fois de plus sur le net. Quant aux chansons, elles ont également inspiré un roman paru en janvier et qui porte un titre digne d'une fan transportée par son idole, Jean-Jacques. On aura compris, même s'il a disparu des scènes aujourd'hui, Goldman reste le chanteur préféré des Français. Et Karine Hazan avoue que, comme l'héroïne de son roman, elle était ce qu'on appelle une fan. Quand je dis fan, écrit-elle, je veux parler de cet état de fièvre qui m'habitait avant un concert et qui culminait dans un cri vibrant et désespéré que je lançais depuis la fosse du Zénith de Paris lorsque l'heure tragique de la séparation approchait. Jean-Jacques, je t'aime ! Oui, plusieurs fois dans ma vie j'ai crié « Jean-Jacques, je t'aime ».
Tous ces défauts qui sont autant de choses. Je te donne toutes mes différences.
I can give you vice, baby, rhythm and soul. The part of the Welsh finds lost his home. Put it in harmony, let the words ring. Carry a thought in the songs we sing. Je te donne mes notes, je te donne mes mots. Quand ta voix les emporte à ton propre tempo. Une épaule fragile et solide à la fois. Ce que j'imagine et ce que je crois. Je te donne toutes mes différences. Tous ces défauts qui sont autant de chances. On ne sera jamais des scandales, des gens bien comme il faut. Non, non, non. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux.
Voilà bien quelque chose d'impossible en ce moment, assister à un concert pour de vrai. Ou à un spectacle. Mais on peut toujours crier « je t'aime » à son écran ou à qui on veut finalement. C'est peut-être ce qui est arrivé en janvier pendant le week-end du 23. La France entière a été invitée à suivre sur ses écrans les Nuits de la Lecture et le Festival Le Goût des Autres, programmé à cette même date, a adopté lui aussi le numérique plutôt que de tout annuler. Toutes les rencontres, les lectures, souvent musicales d'ailleurs, ont été diffusées en direct et reste visible sur le site du festival. On a regretté de ne pas pouvoir assister en vrai à la lecture musicale que Lola Lafon a proposée de son roman chaviré qu'on avait lu dans la quatrième de janvier. Mais on a eu la chance de la rencontrer dans les coulisses et vous pourrez l'entendre cette semaine dans le petit supplément hebdomadaire de cette quatrième de couverture, la quatrième, l'hebdo. Et comme on était dans les coulisses, on a demandé à Serge Rouet, le directeur du festival Le Goût des Autres, de nous parler du rôle d'une telle manifestation dans le goût du public pour la lecture.
Vous Moi, profondément, je pense qu'un festival littéraire, il est fait pour que les gens se rencontrent. Voilà. Il y a un festival qui s'appelle Le Goût des Autres.
Oui.
C'est vraiment très important. On est de plus en plus enfermés les uns et les autres avec nos outils informatiques, nos manières de voir, nos manières de faire. Et il n'y a rien de plus beau que l'émotion partagée. On le voit aujourd'hui avec cette absence de théâtre ouvert, toutes ces salles de spectacle où on ne peut plus aller. C'est très important qu'on puisse faire des choses ensemble. Et donc, la lecture, d'une manière générale, c'est une activité solitaire. On peut parler des livres qu'on aime, aux gens autour de soi, on peut partager ses coups de cœur littéraires. Mais le festival, ça vient apporter de la vie, ça vient apporter une pulsation, c'est comme un battement de cœur qui s'accélère pendant quelques jours. Ça permet aussi d'avoir des paysages littéraires, de s'inventer des mondes, de s'inventer des évasions. Voilà, je crois que c'est pour ça que c'est intéressant. Et c'est pour ça que c'est très important, j'allais dire, de creuser les thématiques, d'aller à la découverte, de faire redécouvrir des grands auteurs, de participer à l'exploration de choses beaucoup plus personnelles, mais en même temps de les faire avec un large public, se sentir un parmi beaucoup d'autres et se sentir aussi rasséréné par le fait qu'on puisse partager des goûts avec d'autres.
Oui, c'est vrai, vous dites un festival. C'est vrai que dans festival, on entend fête aussi. Il y a cette notion de quelque chose de joyeux, quelque chose donc qu'on partage tous ensemble. Et le titre est magnifique parce qu'il n'est pas très récent, ce titre.
Non, mais il dit, c'est un des plus beaux titres. C'est pas moi qui l'ai inventé, donc je peux le dire. C'est un des plus beaux titres de festival en France, Le Goût des Autres. Pour moi, ça claque comme une évidence, ça claque comme une manière de fête, vous avez raison. Moi j'aime bien, souvent je dis oui, la littérature est une fête, j'aime aussi dire que la littérature est un feu d'artifice, voilà. Et donc c'est un mélange de couleurs, il y a des choses avec beaucoup d'éclat, des choses plus neutres qui fonctionnent parce que d'autres sont mises dans la lumière, mais voilà. Et puis être ensemble, ça veut dire aussi accepter la différence de l'autre et la notion de goût des autres, c'est-à-dire se projeter dans l'étrange que peut représenter l'autre. Et ça, aujourd'hui, parfois on a tendance à se rassembler avec les autres qui vous ressemblent. Apprendre à avoir le goût des autres, c'est vraiment apprendre à aimer les autres.
Oui, c'est un très joli programme. Et le fait que souvent ce soit des lectures qui se sont faites par les auteurs eux-mêmes, vous pensez que ça joue aussi sur le plaisir qu'on peut prendre à les écouter?
Oui, parce qu'un livre correspond à un écrivain. À cet écrivain correspond aussi une sorte de fabrique. C'est-à-dire que de fabriquer un livre, c'est comme quelque part être dans son atelier à façonner, à écrire des mots, à écrire, développer des phrases. Et donc quand vous avez l'avantage d'un écrivain qui vient lire son propre texte, vous êtes comme si vous étiez dans les coulisses quelque part de cette création. Vous voyez l'écrivain reprendre ses mots, vous voyez quelle intonation il donne à ses mots, quelle rapidité parfois il a à lire certains passages, et puis des moments beaucoup plus lents par ailleurs. Voilà. Et donc on retrouve comme ça une musique, la musique des mots, la musique des phrases, elle tient parfois à la merveille de l'auteur lisant ses livres.
Et la musique, vous parlez de musique, il y a plusieurs lectures qui sont accompagnées ou qui sont des lectures musicales. Là aussi, ça ajoute une autre dimension pour vous à cette lecture.
Alors là, je dirais que c'est une dimension plus spectaculaire. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'un festival, aussi, c'est l'occasion pour le livre de rencontrer la scène. Donc, l'univers de ces lectures musicales, c'est véritablement ça. C'est venir apporter, comme ça, de manière très impressionniste, des touches. Parce que le livre, vous ne le lisez pas en entier. Vous choisissez des passages. Donc, quelque part, vous mettez un grand angle sur une partie du livre. Et puis après, vous rajoutez des agréments. Et la musique est un accompagnement assez formidable, parce que ça vient encore plus déployer l'émotion, c'est-à-dire que vous êtes encore plus porté à la concentration, puis voilà, puis la dimension de mélodie, elle s'entend tout autant pour un texte que pour une musique, que pour une chanson. Il faut toujours avoir à cœur, je pense, malgré tout, de rassembler les gens. Ça, c'est très important. On ne peut pas être enfermé chez soi en permanent. Il faut trouver les moyens de pouvoir faire en sorte d'être ensemble. Aujourd'hui, c'est pas possible. Il faut retrouver, j'espère, le plus tôt possible cette dimension de cet ensemble. Mais il faut utiliser tous les moyens que le progrès propose.
Voilà. Et puis, on aura le plaisir de retrouver les enregistrements en accès assez longtemps, peut-être.
Oui, bien sûr. Et puis, on voit se développer aussi par ces réseaux sociaux toute une série de commentaires qu'on n'entendait pas d'habitude. Alors, évidemment, on les entend dans les sorties de salle où on entend des grands enthousiasmes. Mais on entend pas les gens qui vous disent aussi « Oh là là, c'est nul, j'aimais pas ça ». Et c'est vrai que parfois, les réseaux sociaux, les gens se libèrent beaucoup plus leurs paroles, disent des choses de manière plus frontale, puis d'autres réagissent en disant « Bah non, je suis pas d'accord avec vous ». Donc vous voyez, il y a de la vie, il y a de la communauté qui se crée. Le pire, c'est de ne rien faire. Parce que le silence, c'est vraiment ce qu'il y a de plus déprimant en soi par rapport... c'est beau le silence, hein, je dis pas qu'il en faut pas par moment, mais le silence, c'est-à-dire de taire toute expression artistique, aujourd'hui, ça serait terrible.
Oui, donc pour une radio, c'est formidable. Ah bah. Pas de silence, mais de la voix et de la parole. Merci beaucoup. Ce n'est pas très difficile d'ouvrir notre parenthèse littéraire après avoir entendu Serge Rouet évoquer le festival Le Goût des Autres. Une écrivaine amoureuse du Havre a été souvent invitée à ce festival et on a pensé à elle. C'est Mélisse de Kerangal, parce qu'en 2006, elle a publié un roman étourdissant sur trois jeunes ados emportés par un phénomène musical époustouflant, la découverte d'une voix et d'un groupe au Havre. Le roman, c'est Dans les Rapides, et la lecture, c'est Raphaël.
Dans les Rapides, Mélisse de Kerangal. Le Havre, 1978. Au moment où commence cette histoire, car il y a toujours un commencement, un et un seul, même si ramifié dans les chevaux poreux des multiples, même si infiniment petit dans la broussaille du temps, il y a toujours l'instant cutter qui se détache et déchire le réel. Schlack ! Au commencement, donc, il y a trois filles qui piétinent sous la pluie tiède de septembre, à l'arrêt du bus numéro 1, en haut du boulevard Albert Ier, au Havre. Il est 17h et le jour tombe. Bientôt, une R16 pistache décélère en rasant le trottoir. Les filles bien qu'aspergées se penchent pour mieux voir à l'intérieur. L'eau brouille les vitres. La voiture s'arrête, 10 mètres plus avant. Qu'est-ce qu'on fait, on y va ? Elles échangent un regard, concertation express, y vont. S'avancent en groupe compact. 10 mètres à parcourir, une question stratégique à résoudre avant d'atteindre le véhicule. Qui va devant ? La grande bringue à bouche rouge et la brune maigrichonne se tournent de concert vers la troisième qui marche sans broncher, yeux plissés vers son futur proche. Le siège avant, côté passager. Et une fois devant la portière, celle-là, jean et basket, tricot arc-en-ciel au point mousse, gabardine, se retourne vers les deux autres. D'accord, mais c'est la dernière fois. L'habitacle empeste le tabac froid, le sel et le chien mouillé. De fait, un type fume au volant, un chien remue à l'arrière. La pluie mitraille la tôle, on ne s'entend pas. Le type est jeune, caban noir et jean délavé, cheveux aux épaules. Il regarde droit devant lui. Demande « Je vous dépose dans le centre ?» Hochement synchrone de trois têtes de filles. Celle à l'avant précise d'un timbre net, rue Arthur Honegger. Le type sourit, appuie sur l'allume-cigare, retourne une cassette dans l'appareil, presse la touche « Play », hausse le volume, enclenche la vitesse, et avant-bras tendus sur le volant et coude cassé en angle droit, mais poignet souple. Regard fixe et bouche entr'ouverte, il appuie sur la pédale et démarre en trombe. Autre chose vrombit au même moment. Autre chose les propulse. Un son qu'elles ne connaissent pas, mais une musique faite pour elles, qu'il ignore encore puisque sont clouées sur place. Bouche sèche et cou tendu vers la fine bande transparente, encastré dans le tableau de bord qui déroule, 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 tandis que la voiture trace, elle, mute bolide, Ferrari, Facel Vega, n'importe quoi de rouge et de puissant, fonce sur le boulevard maritime, ensauvagé par les tempêtes d'équinoxe, sans freiner dans les virages. Cette autre chose, un son tendu et survolté qui opère dans leur corps comme une injection d'oxygène. Sonnerie du téléphone, bruit sale, nasillard. Sans attendre, déboule une voix de fille. Une voix de fille qui sonne comme une voix de fille, justement. Une voix qui chante vite et fort et vite et fort et vite. Fend la cité de béton, pierre contre pierre, traverse le décor, râpeuse, sèche et tranchée avec revers velours, tournoyante cette voix, le caillou de la fronde. Et la fille à l'avant regarde ses comparses dans le rétroviseur, ahurie. Enfoncées dans la banquette et collées l'une à l'autre à cause du chien Maus, les épaules remontées aux oreilles, les yeux fixes, et bientôt la voiture se gare rue Arthur Honegger. Le type se tourne vers ses passagères et annonce par-dessus son bras « Vous êtes arrivées les filles !» Les portes claquent à l'arrière et le silence se fait dans la cabine saturée, malgré l'averse grenue qui tambourine et le chien qui halète, puissant, massif. C'est un Terre-Neuve. Sa langue rose, humide, pend hors de sa gueule comme une escalope. Ses yeux sont dorés comme de l'or piment. La fille à l'avant se tortille sur son siège, en nage, joue brûlante et mains glacées. « S'il vous plaît, c'est quoi, là, ce qu'on vient d'entendre ?» Le type se penche vers la boîte à gants, de sorte qu'il semble poser sa tête sur les genoux de la fille, avance la main dans la cavité, fouille, sort un étui de cassette, lit « Blondie Parallel Lines ». La fille le regarde, répète à voix haute « D'accord, merci ». Puis descend rejoindre les deux autres, éloignés à l'abri sous un porche qui déjà attendent de savoir. Leur cri de loin « C'est Blondie, c'est Parallel Lines ».
Raphaël. Et impossible de résister, on a eu envie d'entendre un peu de ce hit absolu de 78, Heart of Glass. Et puis parler de parce que la chanteuse iconique, la pionnière du rock, la Marilyn Punk du groupe, glamour et sexy, Debbie Harris, vient de publier Face It, où elle déroule le flot de ses souvenirs et de ses rencontres. Si l'écriture ardente et fiévreuse de Mélisse de Kerangal entraîne le lecteur dans les rapides, ceux des ados aux mobilettes, ceux des courses d'aviron ou des riffs de guitare, les souvenirs de Debbie Harris déploient la même énergie. Alors est-ce qu'on retrouvera en février le goût de ces rapides et de ces tourbillons, de ces chansons qui donnent des ailes? Eh bien, qu'est-ce qui nous attend en février? En février, on en aura des chansons et pour tous les goûts. En février d'abord, les 12 candidats pour représenter la France à l'Eurovision connaîtront le nom de l'Eurosélu lors d'une grande soirée télé. Le traditionnel concert des Enfoirés sera diffusé lui aussi en février. Personne n'a oublié le rôle déterminant qu'a joué Jean-Jacques Goldman, le héros de Karine Azan dont on a lu quelques lignes tout à l'heure, dans le succès de ce projet caritatif initié par Coluche en 1985. Goldman a composé la première chanson des Restos, et il va rester pendant 20 ans son directeur artistique. En février encore seront diffusées, toujours à la télévision, les Victoires de la musique. Et victoire pour qui cette année? Et si c'était Pomme, dont la chanson Les cours d'eau avait conclu notre quatrième de couverture de janvier? On attendra, prenons le temps qu'il faut pour laisser passer les cours d'eau. Pomme nous a entraînés au fil de l'eau, comme Mélisse de Kerangal nous a entraînés dans les rapides. D'ailleurs, ce roman a un autre lien avec la chanson. La table des matières de Mélisse de Kerangal ressemble à une pochette de disque à l'ancienne puisque chaque chapitre porte le nom d'une des chansons de l'album qui fait vibrer Nina, Lise et Marie. Enfin, au fil des voix, égrènera en février les concerts de 20 artistes sur 12 soirées, des grandes voix du monde entre héritage et création, toujours sur Internet. Alors après avoir écouté tous ces chanteurs de variété, on aura peut-être envie de lire ce qu'un psychanalyste, Joseph Agostini, a écrit sur le sujet. Des essais, Dalida sur le divan, ou Gainsbourg sur le divan, ou ses réflexions sur son blog. Le titre nous interpelle. Pourquoi la chanson est importante dans nos vies, surtout en temps de crise? Un texte publié le mois dernier. Il écrit... Rien ne vaut une ritournelle les jours de grosse fatigue et de grosses déceptions. Alors donc, les chansons seraient des baumes sur nos chagrins? Il continue, c'est un alliage subtil entre une voix et une musique, une prosodie et le rythme d'un instrument. Des mélodies qui agissent comme la Madeleine de Proust et qui ressuscitent un passé oublié. Des chansons entendues à la radio qui marquent un événement, un chagrin d'amour. Des chansons qui ont une place de choix dans certains films. Il écrit aussi... Adamo, Dalida, Renaud sont pareils aux Esquimaux et aux bonbons de l'enfance. On peut les écouter sans jamais se lasser. Alors, on sera curieux de lire son prochain roman, qui paraîtra en mars, avec un titre ensoleillé, pour Unique Soleil, où il sera beaucoup question de chansons de variété. On l'a vu, les chansons occupent finalement une grande place dans la vie culturelle. Elles ont l'air modestes, populaires, donc pas très sérieuses, pas très importantes, non essentielles, en quelque sorte. Et pourtant, alors que les sons de la ruralité viennent d'être classés et préservés, les ding-ding-dong, les cocoricots, les chants d'oiseaux, on écoutera sans se poser de questions les chansons qu'on aime. Et on répondra au grincheux « Traîné » parce que le titre et la BO du film de Truffaut « Baiser volé », c'est « Que reste-t-il de nos amours ?» sa chanson de 1942. Et c'est aussi parce qu'on vient de trouver « La révolution traînée » en librairie signée Valentin Schmitt, un bel hommage au fou chantant qui a envoyé promener les vieilles rengaines dans les années 30 et laissé des airs joyeux pleins de poésie. Et plein d'autres chanteurs, tous ces chanteurs de variété qu'Alain René avait choisi en 97 pour son film choral, on connaît la chanson. Johnny, Sylvie, Julien Clerc, France Gall, Bachung, Pierre Vassiliou, Maurice Chevalier, Léo Ferré, 37 chansons. Un film qu'on a revu en mémoire de Jean-Pierre Bacri, lui le bougon du cinéma qui avait poussé la chansonnette dans ce film. Et lui qu'on a retrouvé dans Un air de famille, parce que cet air-là, c'était une chanson de Dalida.
Come prima. Come prima, tu me donnes tant de joie que personne ne m'en donne comme toi. C'est ta bouche qui m'apporte ma joie de vivre. Et ma chance, c'est de vivre rien que pour toi. Que m'importe si tu m'aimes moins que moi. Moi, je t'aime comme on aime qu'une fois. Et je reste prisonnière, prisonnière de tes bras. Comme prima, tu me donnes tant de joie. La notte come allora magica scende, la luna splende e tu sei qui. Mi sento un po' confusa, non so capire e ti so dire solo così. Come prima, più di prima t'amerò. La mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti, le tue mani fra le mani stringere ancora. Come prima tu me donnes chaque jour, come prima tu me donnes don d'amour, que j'espère le rendre conte heureuse dans tes bras comme prima.
Et quoi de mieux qu'une chanson d'amour en italien pour vous souhaiter un bon mois de février, un mois qui fête justement les amoureux le 14, le jour de la Saint-Valentin. Et rendez-vous en mars, le lundi 1er. Merci Raphaël, merci Gabriel et merci Valentin.
C'était la quatrième de couverture, une émission proposée et animée par Christine Barou.